7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins en République centrafricaine. Bonjour Bangui.
Bonjour.
Barala les voisins.
Barala.
Et les voisines, on dit quoi? Elles sont un petit peu moins nombreuses, hein. Comme hier, en tout cas, nous sommes en public à l'Alliance française qui fonctionne à nouveau depuis le mois dernier. Notre émission d'hier, vous le savez, était consacrée à la crise alimentaire en Centrafrique. Et aujourd'hui, nous débattons de l'avenir de l'école et des jeunes en République centrafricaine. Vous le savez aussi, près de la moitié de la population ici a moins de 18 ans, à l'image d'ailleurs de notre public à l'Alliance française. Évidemment, le défi jeune semble immense. Comment reconstruire une école de qualité après plusieurs mois de violence, de conflits interethniques et religieux? Presque la moitié des enfants en âge scolaire n'a pas accès à l'école primaire. Et quand les enfants vont à l'école en Centrafrique, eh bien c'est bien souvent dans des classes surchargées, avec des parents enseignants, c'est-à-dire pas formés. Et ici, c'est vrai, les élèves, les jeunes ont été à la fois des cibles et en même temps, ils ont parfois eux-mêmes pris les armes. On va en parler. À cela s'ajoute depuis quelques jours la grève des enseignants, démarrée donc tout récemment. Et puis il y a un autre sujet d'énervement ici en Centrafrique, les résultats du bac. Moins de 10% de reçus, y compris avec le rattrapage. C'est un chiffre qui tombe finalement un peu comme un symptôme de plus dans un système éducatif malade depuis des années. Alors nous allons en parler avec nos invités qui sont ici présents à l'Alliance française. Mohamed Fall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le représentant de l'UNICEF ici en Centrafrique et évidemment vous êtes responsable de la réponse d'urgence concernant les enfants. C'est bien plus large encore que la scolarité aussi, ça concerne leur sécurité et nous allons en parler. René Sylvestre Kétégouïa, bonjour.
Bonjour.
René Sylvestre, vous êtes proviseur de lycée d'un des plus grand lycée de Bangui, le lycée des martyrs, 8500 élèves, mais vous avez surtout été auparavant pendant 8 ans le proviseur emblématique du lycée Boganda, un lycée qui a été extrêmement, extrêmement affecté par le conflit. Vous avez vécu des heures difficiles et d'ailleurs ce lycée que vous avez dirigé pendant 8 ans avait été construit à l'époque des indépendances pour 600 élèves et aujourd'hui il en abrite
Environ 12 000 élèves.
Voilà, cherchez l'erreur, hein. Bien sûr, nous allons décrypter toutes ces difficultés, tous ces symptômes du système éducatif. Parmi nous également, Zéphira Moba, bonjour.
Bonjour.
Zéphira Moba, vous êtes sociologue.
Oui, c'est ça.
À l'université de Bangui.
C'est ça.
Et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur votre pays. Vous avez beaucoup travaillé sur le thème de la jeunesse. Alors nous avions convié aussi pour parler de l'école la ministre de l'Éducation Gisèle Bedan qui malheureusement s'est décommandée à l'heure où nous enregistrons cette émission. Son avenir politique semble peut-être incertain. Et puis bien évidemment les voisins, les voisines dans le public de l'Alliance française, vous avez la parole pour participer à l'émission, surtout si vous êtes parents, enseignants, élèves, étudiants. Nous allons vous donner la parole tout au long de l'émission pour dialoguer avec nos invités. Je vais démarrer avec vous, monsieur Mohamed Fall. Mohamed Fall, vous qui êtes représentant de l'UNICEF ici en République centrafricaine, dans quelle situation sont aujourd'hui les enfants en Centrafrique?
La Centrafrique est l'un des pays au monde où il est le plus difficile d'être un enfant. C'est l'un des pays où on trouve les mortalités infantiles et infanto-juvéniles les plus élevées. C'est un des pays où on trouve les taux de scolarisation les plus faibles. C'est un des pays où les cas cumulés de violences faites aux enfants au quotidien sont les plus élevés. Et je pense donc que s'il y a un résumé à faire de la crise centrafricaine, on peut dire que c'est une crise qui a un visage d'enfant.
Une crise qui a un visage d'enfant, c'est une formule qui fait froid dans le dos, évidemment, Mohamed Fall. Quand vous parlez des violences qui sont faites aux enfants, à quoi pensez-vous?
Je pense d'abord à la difficulté aux enfants d'accéder aux services de base. Par exemple, la couverture vaccinale. On voit que les taux de couverture ont baissé et aujourd'hui les services de vaccination, qui sont l'un des services de santé publique les plus faciles à offrir, ne sont offerts qu'à 42% dans un pays comme la Centrafrique. Dans un contexte où on voit que partout dans le monde, à cause de la vaccination, à cause des soins prénataux, à cause de beaucoup d'interventions en matière de santé publique, la mortalité infantile est en train de reculer à plus grands pas, on voit que les enfants centrafricains ont une mortalité 3 fois supérieure à la moyenne mondiale. Je crois que ça en dit long. L'autre élément que je voudrais peut-être utiliser, c'est de dire combien la violence s'exerce au quotidien. Peut-être qu'on pourrait avoir une panoplie d'exemples, mais je vais juste me limiter à la question de l'enrôlement dans les groupes armés. Aujourd'hui, on regarde où les statistiques indiquent que 6 à 10 000 enfants sont enrôlés dans les groupes armés. Le nombre est extrêmement élevé, mais pas seulement ça, mais le nombre est 3 ou 4 fois supérieur à d'autres pays qui connaissent ce genre, le même conflit que la Centrafrique connaît aujourd'hui. Ce nombre est pratiquement 4 ou 5 fois supérieur à ce qu'on a dans la République démocratique du Congo voisine. Ce nombre est 3 fois supérieur à ce qu'on voit au Tchad. Ce nombre est peut-être 3 à 4 fois supérieur à ce qu'on voit aujourd'hui au Soudan, qui connaissent les mêmes types de conflits. En regardant les statistiques, le seul exemple qui me vient à l'esprit sont les exemples du Libéria et les exemples de la Sierra Leone des années 90, qui étaient connus aussi pour avoir vraiment exercé des formes de violence extrêmes aux enfants. La violence n'est pas seulement l'enrôlement dans les groupes armés. C'est le fait de les envoyer aussi sur les barricades quand il y a des conflits ou quand il y a des crises. C'est le fait de les utiliser en première ligne sur les lignes de front. C'est le fait de les utiliser comme porteurs. C'est le fait aussi d'en faire même quelquefois des esclaves sexuels qui amènent à des situations telles qu'on voit des mères qui ont moins de 15 ans avec tous les risques que cela comporte de maladies sexuellement transmissibles ou bien de propagation du VIH. Voilà donc quel visage est là, cette violence-là, et qu'on vit au jour le jour et à un nombre extrêmement élevé.
Est-ce que cette violence sur les enfants s'exerce encore aujourd'hui, parfois au quotidien pour certains, et un peu partout sur le territoire, ou c'est très limité sur le territoire centrafricain?
La violence, elle est encore fortement présente. J'ai parlé de 6 à 10 000 enfants enrôlés dans les groupes armés. L'UNICEF, avec l'ensemble des partenaires internationaux, que ce soit les partenaires gouvernementaux ou non gouvernementaux, travaille à leur libération de ces groupes armés. En 2013, malgré tous les efforts, on a pu libérer que 500 enfants. En 2014, plus de 2300. Mais 2300 sur 10 000, ça veut dire qu'il y a encore des milliers d'enfants qui restent encore aux mains de ces groupes armés.
Quand vous dites on a pu libérer, il y a des tractations financières avec les groupes armés, entre l'UNICEF et les groupes armés, comment faites-vous?
Absolument.
Qu'est-ce qui peut décider un groupe armé à libérer des enfants juste à la demande de l'UNICEF?
Le plaidoyer, le rappel des principes, normes et standards internationaux, rappelant aux commandants et aux groupes qui utilisent ces enfants les risques qu'ils encourent par rapport à la justice nationale et à la justice internationale.
Dans un pays où règne l'impunité depuis si longtemps?
Oui, mais dans un pays où il y a aussi des efforts de la part des partenaires internationaux pour rétablir la justice, pour rétablir l'état de droit, dans un pays où des forces amies ou des forces multinationales sous le commandement des Nations Unies sont en train d'améliorer progressivement la sécurité. Voilà donc l'architecture sur laquelle on s'appuie. Et en plus justement de ce dialogue-là, nous avons d'autres partenaires qui sont présents sur le terrain, les organisations non gouvernementales, les organisations communautaires, qui travaillent avec les enfants, qui travaillent avec les communautés, qui travaillent avec les familles, qui les sensibilisent et qui offrent aussi d'autres alternatives aux enfants, à savoir par exemple l'éducation de base.
Alors justement, l'éducation de base, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, quel est l'état des écoles primaires en Centrafrique? On a beaucoup dit, les rapports de l'UNICEF ont été très alarmants sur au moins une centaine d'écoles qui ont été cibles d'attaques de groupes armés. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
La crise a fortement affecté le système éducatif. Aujourd'hui, je pense que le système éducatif fonctionne à un maximum de 55 à 60%. Donc on a encore à peu près...
De sa capacité normale.
Oui, de ses capacités normales, on a donc à peu près 40% des écoles qui ne fonctionnent pas. Et les raisons sont multiples. Et c'est essentiellement lié à la violence, c'est essentiellement lié à l'insécurité, c'est essentiellement lié à l'utilisation des structures scolaires et des écoles comme des baraques de regroupement pour les groupes et forces armées. C'est aussi la violence et la peur qui s'installent au sein des communautés et qui fait que les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école, surtout quand il s'agit des filles, sachant tous les risques d'insécurité, sachant tous les risques de violence.
René Sylvestre Kétégouïa, vous êtes proviseur du lycée des Martyrs, 8500 élèves, vous avez pris vos fonctions là à la rentrée scolaire, mais pendant 8 ans vous présidiez aux destinées d'un lycée qui a eu beaucoup de difficultés avec le conflit, le lycée Boganda. Est-ce que la mémoire de la violence est palpable dans votre lycée à l'heure actuelle, dans les salles de classe, entre les élèves eux-mêmes?
Merci, j'en profite de cette occasion pour souhaiter mes meilleurs voeux aux 7 milliards de voisins, mais veut également à toute la population centrafricaine. Concernant l'établissement que j'ai eu à gérer il y a de cela 8 ans, c'est que la violence à la reprise des cours était omniprésente. Nous avons côtoyé des enfants qui étaient dans les deux camps et nous avons eu à dialoguer avec ceux-là, nous avons eu à échanger avec eux. Ce qu'on a pu faire, c'est de chercher à enrayer ces stigmates, la violence qui se profilait à l'horizon, parce que déjà dans les salles de classe, il y a des conflits entre eux-mêmes pour des raisons banales.
Des bagarres entre élèves, c'est ça?
Oui, des bagarres entre élèves.
Mais alors, vous, en tant que proviseur, dans ces cas-là, dans un lycée normal, on va dire, où il n'y aurait pas cette mémoire de la violence, que feriez-vous?
Nous aussi, on habite dans le quartier, on vit quotidiennement avec ces enfants. Et c'est des enfants qui ont la violence dans la mémoire et qui sont prêts à agir. Au quartier, vous savez que ces enfants, deux fois ils ont des grenades, deux fois ils ont des armes.
Ça veut dire que punir un élève, c'est s'exposer vous-même à un risque?
Vous vous exposez, mais vous savez, lorsque vous aimez votre travail, vous le faites parce qu'il y a un règlement intérieur qui régit le fonctionnement des établissements. Donc, on ne fait qu'appliquer ce règlement intérieur.
Mais alors, comment on restaure l'autorité dans un lycée après ce qui s'est passé?
Il faut beaucoup de sensibilisation. Nous le faisons avec l'appui des surveillants généraux et des parents d'élèves. Parce que ces enfants qui arrivent, ils ont un engouement pour la reprise, ils ont un engouement pour l'enseignement. Donc ils veulent le reprendre. Et vu leur passé, il faut essayer de les sensibiliser, de les amener progressivement à pouvoir intégrer la société scolaire. Donc c'est ce que nous faisons au niveau des établissements.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une LUCAM. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
7 milliards de voisins à Bangui, émission enregistrée à l'Alliance française. Nous parlons d'un sujet crucial pour les Centrafricains aujourd'hui, alors que la crise est encore difficile, le conflit est encore extrêmement récent. Je voudrais qu'on donne aussi la parole à des jeunes dans le public, hein, parce que vous savez, ils ont des choses à nous raconter, eux aussi. Abdoul Nasser est dans le public avec nous. Bonjour Abdoul Nasser.
Bonjour.
Vous êtes étudiant, professeur de lycée. Expliquez-nous un petit peu quel a été votre parcours, comment vous vous situez dans ce qu'on vient de raconter.
Oui, moi je suis Abdoul Nasser Mamadou, étudiant en Master 1 Administration et Gestion des Affaires à l'Université de Bangui. Compte tenu de tout ce qui vient de se passer, je n'arrive même pas à mettre pied à l'université. Je suis au quartier et mes cadets aussi sont là. Comme mes cadets sont là, ensemble avec les cadres musulmans de kilomètre 5, on avait dit qu'on ne peut pas laisser les cadets là comme ça.
Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que le kilomètre 5 pour les auditeurs qui ne sont pas en Centrafrique?
On appelle ça PK5, c'est là où il y a des musulmans là-bas.
C'est un des derniers quartiers de Bangui où il reste?
Oui.
Des musulmans.
C'était au niveau du 3e arrondissement, c'est là où nous les musulmans on est.
Vous n'allez plus à l'université, pourquoi, Abdoul Nasser?
Je ne peux pas aller à l'université parce qu'il y a l'insécurité. Je ne peux pas quitter kilomètre 5, arriver jusqu'au niveau de l'université parce que je ne sais pas en route, on peut m'arrêter ou on peut m'agresser.
Comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici à l'Alliance française aujourd'hui dans le 2e arrondissement?
Oui, parce que maintenant il y a la paix, donc on peut bouger n'importe où, là où on veut aller. Mais auparavant, on ne peut pas bouger, hein. On est là sur place. Je n'ai rien à faire, je suis là. On s'est réunis, on avait dit que nous, les étudiants qu'on est là, on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. On avait marché, c'est-à-dire quartier par quartier, pour faire le recensement de ces élèves qui sont là-bas. On avait dit, bon, comme il n'y a pas de maître qui peut les enseigner, on avait dit, il faut qu'on fasse un test, c'est-à-dire de recruter les gens qui sont un peu lettrés, de les encadrer.
Vous êtes improvisé finalement instituteur d'une certaine façon.
Oui, bon, hein? comme on avait fait une test, bon, je suis admis.
Est-ce que vous êtes rémunéré pour faire ça, donc pour enseigner aux enfants au kilomètre 5?
Je ne suis pas rémunéré, mais celui-là, je fais ça bénévolement.
Benamou, juste à côté de vous. Bonjour Benamou, on vous passe le micro.
Bonjour, 7 milliards des voisins.
Alors vous êtes professeur vacataire dans un lycée technique, c'est ça Benamou?
Ouais, je suis ex-professeur vacataire dans un établissement scientifique, le lycée Cheikh Hamdan Ben Rachid du Bangui.
Ouais.
Parce que j'interviens plus maintenant. J'ai arrêté depuis le jeudi 5 décembre 2013. Ce qui s'est passé, c'est difficile à raconter et c'est horrible. Je ne peux pas vous l'évoquer là où je suis.
Pourquoi aujourd'hui vous n'enseignez plus dans ce lycée technique, Benamou?
Le premier problème en est que j'étais à Miskine. À Miskine, c'est un quartier qui se trouve dans le 5e arrondissement de Bangui. Et à Miskine, aujourd'hui, il n'y a plus ma maison, mes frères, mes parents, ils sont dispersés aux quatre coins de l'Afrique et du globe en question. Mes propres parents se trouvent dans un camp de réfugiés au Tchad. Et j'ai d'autres parents qui sont au Congo, au Cameroun, etc. Et moi, je me suis réfugié avec l'un de mes oncles, qu'on a été sauvé par nos voisins du quartier. C'était horrible. On est sorti par justesse pour nous rendre au kilomètre 5, une dernière zone pour les musulmans rescapés de ces événements.
Des combats entre la Séléka et les anti-Balaka.
Le lycée où j'enseignais se trouve dans le deuxième arrondissement. L'itinéraire faisait défaut pour quitter le troisième jusqu'à arriver au deuxième arrondissement. Il faut parcourir 2 à 3 kilomètres.
2 à 3 kilomètres. Voilà. Ces 2 à 3 kilomètres, aujourd'hui, vous ne pouvez pas les parcourir pour aller enseigner, Ben Amou ?
Moi, j'interviens en informatique. En informatique, j'ai géré une dizaine, voire même vingtaine des ordinateurs dans le lycée. Et tout est pillé, saccagé. Et aujourd'hui, je ne peux pas aller là-bas, puisque les patrons qui me payaient ne sont plus là.
Le lycée fonctionne toujours ou pas ?
Ça fonctionne toujours, vu les efforts fournis par l'ex-proviseur en époque, Monsieur Rousseau, qui est maintenant proviseur au lycée technique.
Mais vous n'avez plus de quoi travailler avec vos élèves.
Non. Et les patrons qui nous payaient sont partis. J'ai sorti fraîchement de l'université des Bangui. Ouais.
Vous avez 24 ans, je ne l'ai pas précisé encore.
25 aujourd'hui même, le 16.
C'est votre anniversaire.
Ouais.
Bon anniversaire, Ben Amou.
Merci, merci les voisins et merci les voisines aussi.
Qu'est-ce que vous espérez en ce jour de votre anniversaire, Ben Amou, après ce que vous nous avez raconté sur votre histoire, votre parcours ?
Un seul mot, la paix, c'est tout. J'aimerais que la paix revienne dans notre pays pour que parents chrétiens, parents musulmans puissent se côtoyer comme dans le passé, dans une parfaite cohésion sociale, la paix. Voilà.
Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup.
Merci 7 milliards de voisins.
Oliviera, vous souhaitez vous exprimer, vous êtes étudiant.
Je suis étudiant.
Ouais.
Bonjour à tous les voisins, bonjour à tous les voisines. Moi-même, j'ai fait une analyse. C'est que cette crise que vive le secteur de l'éducation en République centrafricaine aujourd'hui est une crise qui a commencé depuis vers les années 1990, à l'époque où le président André Kolingba gérait encore l'État centrafricain. Comme il y avait eu des années blanches à répétition, même jusqu'à l'époque du président Patassé, ceux qui avaient été victimes de ces années blanches, c'est eux qui sont devenus aujourd'hui les acteurs. C'est-à-dire, c'est eux qui sont à l'origine de cette crise. C'est eux que les hommes politiques prennent pour utiliser, pour venir détruire encore le pays. Donc, c'est selon mon analyse. Dans un État où il n'y a pas l'éducation, l'État est censé disparaître. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en République centrafricaine.
On a bien compris. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette analyse. Oliviera, vous êtes étudiant sur le campus de Bangui. Je voudrais qu'on laisse la parole à un sociologue, Zéphirin Moba. Un mot de commentaire par rapport à ces témoignages que vous venez d'entendre. Ensuite, nous lançons le flash sur RFI. Et bien sûr, deuxième partie de l'émission juste après. Vous avez la parole, Zéphirin Moba.
Merci beaucoup. Le seul témoignage ou le seul mot que je peux dire ici, c'est que le visage de la jeunesse centrafricaine est déchiré. Déchiré à diverses dimensions. Ce sont les frustrations, le désespoir, lorsque vous les écoutez parler, c'est des humiliations. C'est aussi une jeunesse devenue tueuse, dangereuse même pour la nation. Et en même temps, on a une autre jeunesse qui se construit et qui veut être engagée pour...
Et qui est ici dans le public. Hein,
Et ce que je dis, je le vois tous les jours parce que ces jeunes ont été victimes de l'instrumentalisation. Et l'instrumentalisation en Centrafrique ne date pas d'aujourd'hui.
L'instrumentalisation politique des jeunes en Centrafrique, c'est un sujet qui a des résonances sur le reste du continent. Bien sûr, nous allons y revenir juste après le flash sur RFI. Vous restez tous les trois avec nous, René Sylvestre, Kété Guiya, Mohamed Fall, Zéphirin Moba. Nous retrouvons 7 milliards de voisins dans un peu plus de 3 minutes après le flash sur RFI. Et bien sûr, vos témoignages, les voisins et les voisines.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI à Bangui. Oh, Bangui, Bangui, Bangui. Voilà ce que j'entends dans le public. Deuxième émission enregistrée à l'Alliance française dans la capitale centrafricaine. Beaucoup de jeunes aujourd'hui et pour cause. Ils sont au cœur de notre émission. Quel avenir pour les jeunes avec un système éducatif encore plus fragilisé depuis le conflit? Comment donc, dans ce contexte, redonner le goût de l'école, le goût des études et puis tourner la page de la violence? On en discute avec nos invités. René Sylvestre Kétégouya, qui est proviseur de lycée, d'un gros lycée avec 8500 élèves, qui se débat avec des difficultés quotidiennes. Zéphir Amoba, qui est sociologue. Vous nous parliez juste avant le flash aussi de vos difficultés avec la mentalité des jeunes aujourd'hui et parfois le désespoir. Et Mohamed Fall, représentant de l'UNICEF en Centrafrique, vous nous avez brossé un tableau certes réaliste, assez sombre aussi, de la situation des enfants en Centrafrique. Vous nous avez dit que les enfants étaient au cœur du conflit. Quelle était l'expression que vous avez employée d'ailleurs en première partie d'émission, Mohamed Fall?
La crise centrafricaine a un visage d'enfant.
Voilà, la crise centrafricaine a un visage d'enfant, mais peut-être pas dans le sens que l'on aimerait.
Il est vrai que depuis le début de l'émission, on ne parle que de crise, de sa profondeur, de son acuité, de la façon dont les jeunes et les enfants sont affectés. Mais cela ne doit pas nous faire perdre l'espoir. Et nous avons des raisons d'avoir de l'espoir. Nous les avons ici parmi les voisins, à entendre parler le proviseur, qui parle de son métier comme un sacerdoce, de remettre sur pied son lycée malgré tous les défis. À entendre parler ces jeunes qui prennent toutes ces initiatives dans le sens de la réconciliation et de la cohésion. Pour moi, on a des milliers d'exemples comme cela, qu'on vit dans les familles, dans les communautés, à Bangui, à l'intérieur des camps de déplacés. Et nous devons aussi capitaliser sur ces éléments. Et sur ces éléments, j'aimerais aussi dire au nom de l'UNICEF que les Centrafricains ne sont pas seuls. Il y a la communauté internationale et la communauté internationale est là pour nous accompagner dans le sens de l'espoir.
Ça, c'est sûr, vous êtes là. Le ministère de l'Éducation n'est pas là, mais vous, vous êtes là.
Je suis là. Les partenaires bilatéraux sont là. Les partenaires multilatéraux sont là. Dans le domaine de l'éducation, on vient d'avoir des appuis significatifs de l'Union européenne pour revitaliser l'éducation de base. On vient d'avoir le partenariat mondial aussi sur 15 millions de dollars pour aider le système éducatif. Je voudrais juste partager ces exemples-là pour que aussi cette jeunesse puisse aussi avoir de l'espoir, tourner le dos à ce qui s'est passé et regarder l'avenir.
Mais si l'argent arrive et qu'il n'y a pas la bonne gouvernance derrière, Zéphir Amoba, vous souhaitez prendre la parole.
Il y a de l'espoir, je suis d'accord avec M. Fall. La crise n'a pas été aussi que négative. Elle a servi aussi de leçon. Et les Centrafricains ont appris beaucoup de leçons. Des leçons par rapport à leur mode de vie, et la facilité, et les manières de faire. Et mon jeune étudiant disait ici qu'il y avait la corruption qui se développait. Et cette corruption n'est que le fruit même de la société centrafricaine. L'espoir viendra d'où et de qui? L'espoir viendra d'abord des Centrafricains, avec l'appui des partenaires au développement. Mais il faudrait que les Centrafricains aient une nouvelle vision de leur vie et que la jeunesse centrafricaine se tourne aussi vers l'avenir et que cette jeunesse centrafricaine cesse de se conduire en victime. Beaucoup de gens se mettent dans la victimisation, dans cette posture pour voir l'avenir, pour dire que non, l'État m'empêche de faire ça, c'est à cause de l'État, je suis comme ça aujourd'hui, etc. Et il appartient aux jeunes centrafricains de se mettre au travail. Mais l'école doit se réveiller.
Alors,
l'école, c'est le fondement même de la République.
Zéphir Amoba, posture de victimisation, c'est ce que vous dites aux jeunes là qui sont assis devant nous dans le public. Guy Rémy, vous êtes d'accord avec cette forme d'accusation vis-à-vis des jeunes?
Non, je ne suis pas d'accord avec cette forme d'accusation. Et avant de revenir là-dessus, je suis également contre ce que l'autre Oliveira disait tout à l'heure avant le flash. Il disait que ce sont les victimes des années blanches, des années antérieures, qui sont à l'origine de la crise. Moi, j'étais victime ces années-là, mais moi, je ne suis associé à aucun groupe armé. Je sais que le vrai problème centrafricain, c'est le problème de l'éducation des jeunes. Si on éduquait les jeunes à fond, moi, j'ai pas eu la chance de continuer mes études, j'ai abandonné les études en classe de terminale. Mais avec le peu que j'ai appris à l'école, je ne peux pas aller tuer Nasser, je ne peux pas aller tuer Benamou. Parce qu'ils sont des musulmans. Je sais que c'est leur droit, ils ont fait leur choix. Et moi, en tant que chrétien, j'ai également fait mon choix. Mais c'est le problème centrafricain, c'est un problème d'éducation. Le responsable de l'UNICEF à Bangui disait tout à l'heure qu'il y a une baisse de taux d'alphabétisation. C'est ça le problème. Si les jeunes étaient éduqués, les jeunes connaissaient les droits des autres, on n'allait pas arriver à ce stade-là. Mais comme ces jeunes ne connaissent pas ces droits-là, c'est pourquoi ils sont manipulables. Ils sont maintenant manipulés par les hommes politiques.
Mmh. Moi, alors, justement, juste avant le flash, notre ami sociologue Zéphir Amoba nous disait, on a été coupé par l'arrivée du flash sur RFI, vous disait, les jeunes sont instrumentalisés politiquement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
L'instrumentalisation, c'est le fruit des vendeurs d'illusions. Et on le voit aussi à l'université. Vous savez, généralement...
Ça commence dès le lycée, par exemple, ou c'est surtout quand on arrive
surtout,
sur le campus?
Surtout, je prends le cas, par exemple, de l'université où j'enseigne. Quand un étudiant postule pour être président de l'ANECA, l'ANECA, c'est l'Association Nationale des Étudiants Centrafricains, et les régimes vont le courtiser, parce qu'on suppose que en ayant le président de l'ANECA de son côté, on peut contrôler l'université, on peut influencer les revendications que le syndicat des étudiants, l'ANECA, pouvait faire. Par exemple, si vous arrivez à l'université, vous n'avez même pas de craie pour écrire. Parfois, moi, je fais des cours de 4 heures de temps debout. On n'a même pas d'électricité. Ça a été vandalisé. Et quand vous allez dans des salles où il n'y a même pas de table-banc, les étudiants apportent leurs chaises. Parfois, certains se mettent debout pour écrire. Quelle qualité de produit attendez-vous de ces étudiants? Vous voyez? Et cette situation, je l'ai vécue. Cette situation, je le vis au quotidien.
Alors, si vous le voulez bien, Zéphir Amoba, nous allons essayer de trouver des pistes d'action, des pistes d'espoir pour l'avenir des jeunes en RCA. On en reparle dans quelques instants avec justement les résultats du baccalauréat. On va pas se voiler la face, mais on va essayer de comprendre comment on peut améliorer le système éducatif en République centrafricaine.
7 milliards de voisins.
On est tout proche.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
7 milliards de voisins, on est en public à l'Alliance française sur RFI et nous auscultons le malade, l'école centrafricaine aujourd'hui. Je voudrais vous donner la parole, René Sylvestre Kétégouya. Vous êtes proviseur de lycée, donc vous avez des élèves de la 6e à la terminale. Il y a un gros sujet en République centrafricaine là depuis plusieurs semaines, ce sont les résultats du baccalauréat. Moins de 5% d'admis au premier tour, moins de 10% avec le rattrapage. C'est un chiffre qu'on avait presque jamais vu dans votre pays. Certains disent, pour la première fois, on n'a pas acheté le bac en Centrafrique. Et d'autres disent, c'est un complot scolaire contre les jeunes. Vous dites quoi, vous, en tant que proviseur?
Je pense que les résultats du bac de l'année dernière ont été catastrophiques. Mais ça, c'est réellement le niveau de nos enfants par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Parce qu'il y avait la crise. La crise a perduré, ça fait presque 2 ans. Et ces enfants ont travaillé dans cette crise. Par exemple, au lycée Bouganda où j'étais, on travaillait dans la semaine peut-être 3 fois. Parce qu'aujourd'hui, à détonation, les enfants courent partout. Demain, on revient, c'est la même chose. Et on fait 2 jours de cours, on revient. Et bien voilà les conditions dans lesquelles les enfants ont travaillé durant toute l'année académique. C'était très difficile. Bon, maintenant...
Aujourd'hui, les cours se déroulent normalement. Enfin, quand vos enseignants ne sont pas en grève au lycée des Martyrs.
Les professeurs titulaires sont en grève, mais sinon, c'est les vacataires qui ne sont pas en grève. Mais hier, ils sont passés, les grévistes sont passés, perturber le bon déroulement des cours.
Donc, quand ce n'est pas la guerre, c'est la grève?
Bon, ben, c'est ce que nous vivons, c'est difficile. Mais ce que je veux dire par rapport aux résultats du bac, c'est que j'ai toujours dit à mes enfants, à mes élèves, à la classe de terminale, que le bac se mérite. Il faut nécessairement lire, il faut nécessairement étudier pour mériter le bac. Le bac ne s'achète pas. Et je leur ai fait comprendre qu'arrivera un jour où ils peuvent se retrouver avec 100 000, 200 000 en poche, ils n'auront pas le bac. Et c'est arrivé, il y a quelques élèves qui sont passés me voir pour me dire, monsieur le proviseur, vous avez raison, j'ai investi, mais malheureusement, j'ai pas pu décrocher le bac. Donc voilà un peu le visage du bac de l'année dernière.
Vous nous dites ça, monsieur le proviseur du lycée des Martyrs. En même temps, vous travaillez pour gérer votre établissement au quotidien. Je suis venue le visiter, votre établissement, vous m'avez montré. Vous m'avez dit, l'essentiel de mes journées se passe à gérer des meubles.
Oui, nous avons un problème de mobilier scolaire au niveau du lycée des Martyrs. L'UNICEF, avec le département de l'éducation nationale, ont conçu un projet qu'on appelle le Back to School. C'est-à-dire que...
Le retour à l'école.
Oui, le retour à l'école. Pour tous les élèves déplacés. Mais le problème, c'est que nous avons accepté, nous avons inscrit les enfants au point que nous n'avons plus de place pour recevoir ceux qui continuent d'arriver. Parce que dans une classe de terminale, par exemple, on se retrouve avec 230 élèves. Les élèves sont debout.
Attendez, 230 élèves dans une salle de classe.
Oui, oui, oui.
Ça s'assoit comment ?
Ben c'est épouvantable. Les enseignants ne peuvent pas travailler. C'est un réel problème.
Mais vous dites aux jeunes, il faut travailler pour avoir son bac. Comment voulez-vous qu'ils aient leur bac dans ces conditions-là ?
Justement, comme nous avons... J'en viens. Comme nous avons le représentant de l'UNICEF parmi nous, je pense que ce projet a été monté par l'UNICEF avec l'appui du département de l'éducation nationale. Maintenant, les problèmes. Tous les enfants vont revenir, mais la capacité d'accueil ne permet pas d'accueillir tous les enfants.
Mmh. Donc, là, le message est clair. Le message est clair. Un proviseur de lycée vous dit, voilà, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas aidé par les bailleurs de fonds. Typiquement, vous ne recevez aucune aide, à part parfois des anciens élèves qui vous envoient une donation, c'est ça?
Oui, oui. Hein? Récemment, il y a un kit de sport qui a été offert par l'UNICEF, mais c'est des ballons. Le problème, c'est des mobiliers scolaires.
Ouais, c'est pas les ballons qui font qu'on a le bac. C'est sympa aussi, ceci dit, de jouer au foot, hein? Mohamed Fall.
D'abord, je reviens en saluant le courage, l'abnégation et l'engagement de notre ami proviseur. Ça fait vraiment partie de ce que j'appelle les héros de cette crise. Et à chaque fois que j'ai une occasion d'intervenir en public, mon souci majeur, c'est que ces héros soient mis en avant. Et comme je dis, on les trouve partout. Et je crois qu'ils méritent des applaudissements pour ça. Maintenant, pour répondre au point qu'il pose, je reviens à ce que je disais. L'école centrafricaine a une crise qui a une double nature. La crise, d'abord, elle a un caractère structurel. La crise, elle était là indépendamment des problèmes et de la récurrence des violences. Elle a des problèmes pour offrir assez de place à tous les enfants. Il n'y a pas assez de maîtres, il n'y a pas assez de salles de classe, il n'y a pas assez de salles de table-banc.
42% des enseignants sont des maîtres-parents, c'est-à-dire pas des enseignants.
Il n'y a pas assez de matériel didactique. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'alimentation scolaire et de la situation nutritionnelle des enfants. Donc, je peux continuer à lister les problèmes. Donc, il est illusoire, je pense, de penser que en une seule journée ou bien en une seule campagne, avec un seul événement, avec un coup de baguette magique, on peut résoudre tous ces problèmes-là. On est face à une situation où il nous faut agir sur plusieurs dimensions. Comme je disais, on a la dimension des enseignants et à l'intérieur des enseignants, on a le problème des maîtres-parents dont l'encadrement et la formation continue est un besoin. On a les enseignants certifiés mais qui sont heurtés à des problèmes de salaire ou de statut dans la fonction publique. On a la question du matériel didactique, on a la question du mobilier scolaire, on a la question de l'alimentation, on a la question des services d'eau, etc., etc. On a tellement de questions que l'approche qui est en discussion en ce moment, c'est comment il faut procéder. Est-ce qu'il faut prendre l'axe enseignant et penser qu'il faut résoudre tous les problèmes qu'il y a à ce niveau et une fois ces problèmes réglés, on attaque un autre axe? Je ne pense pas que ce soit la bonne approche. L'approche est qu'il faut avoir un regard multidimensionnel, essayer de mobiliser des énergies de différentes sources. Et c'est pourquoi je dis toujours que le problème de l'école centrafricaine n'est pas seulement le problème du ministère de l'Éducation nationale. C'est pas seulement le problème des enseignants.
Ça, on l'a compris avec votre venue dans l'émission. Parce que finalement, l'UNICEF aujourd'hui a l'impression que vous avez plus d'argent que le ministère de l'Éducation nationale. Tous les habitants disent, on voit les 4x4 de l'UNICEF partout, on voit les kits scolaires, etc. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le système éducatif est colonisé par les bailleurs de fonds en Centrafrique?
Je ne pense pas que le mot colonisation soit le mot approprié. Je dirais plutôt que le système éducatif est en partenariat. À cause de la nature de la crise et de la diversité de son origine et de son caractère multidimensionnel, un seul partenaire, un seul segment ne peut pas faire face
donc,
à cette crise.
Dans le même temps, on forme les enseignants parents, on amène des ballons de foot, on amène des tables bancs et on amène des repas. C'est ça.
Et ballons,
là, on avance.
Et les ballons de foot constituent un support extrêmement important pour le jeu. Et le jeu fait partie des activités ludiques qui permet justement de ramener la cohésion sociale, qui permet de ramener la paix et qui fait partie de l'appui psychosocial dont je disais que les enfants ont besoin dans le cadre des traumas dont ils ont fait face.
Je voudrais laisser la parole à une voisine maintenant. Bonjour Gracia.
Bonjour.
Vous êtes lycéenne.
Oui.
Et vous avez envie de parler de la condition des filles que vous représentez. Vous m'avez dit, moi je veux parler des filles parce qu'elles sont véritablement complètement laissées pour compte dans mon pays.
Dans tous les établissements, l'éducation des filles est toujours bafouée. On ne donne pas assez d'importance à l'éducation des filles, et dans la capitale et dans les arrière-pays. Dans les arrière-pays, c'est encore plus pire qu'à la capitale. Là-bas, on n'a même pas assez de moyens pour épauler les filles jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau du baccalauréat, jusqu'à aller en bac composé et avoir des connaissances comme les autres qui sont à la capitale. Et moi, ce qui me fait beaucoup plus du mal, c'est que dans les arrière-pays, il y a des cours qui ne sont pas bien dispensés aux élèves, tels que l'éducation familiale qui consiste à éduquer les filles, à les poursuivre jusqu'à ce qu'elles comprennent les phénomènes de vie, les trucs des cycles et quoi là. C'est pas enseigné aux filles.
C'est-à-dire, à quoi vous faites allusion là, Gracia? Expliquez-nous.
En fait, c'est que les filles, ils n'ont pas cette connaissance sur tout ce qui concerne, en fait, leur vie, leur vie privée, personnelle.
La sexualité.
Voilà, sexualité, hein? Voilà, c'est bafoué. Elles ne savent même pas comment calculer les dates de cycle. Et maintenant, on assiste
pour
à...
Pour pas tomber enceinte.
Voilà, elles tombent enceintes par-ci, par-là. Et il n'y a pas les moyens pour les soutenir. Il n'y a pas des orphelinats où elles pourront faire recours à laquelle pour donner les, pour remettre les enfants.
Pour les grossesses précoces.
Voilà. Donc, c'est un peu ça.
Donc, elles font des enfants qui eux-mêmes n'iront pas à l'école.
Oui.
C'est ça que vous voulez dire?
Oui.
Vous, en tant que, vous avez 16 ans, Gracia, hein. Bravo, déjà, pour prendre la parole, comme ça, en public. Gracia, en tant que lycéenne centrafricaine à Bangui, vous, qu'est-ce que vous demandez finalement?
Je demande à ce que le gouvernement, les chefs d'État, les ministres et quoi et qu'on sort, à mes frères centrafricains, de prendre en responsabilité l'éducation des filles en question.
Donc, c'est pas seulement les filles qui doivent prendre en charge l'éducation des filles, c'est aussi les garçons.
Les garçons aussi, pareillement, parce que l'avenir du pays concerne les jeunes de nos jours. L'avenir du pays est dans nos mains.
Oui, je vais appuyer un peu dans le sens de Gracia en donnant l'exemple sous le régime de Bokassa. Il y avait un code de conduite sous forme de texte qu'il avait pris. Il était interdit aux hommes d'enceinter une fille qui n'a pas terminé sa classe de troisième. Et ces filles qui entraient en sixième, dès qu'elles tombaient enceintes, c'était signalé. Et on déposait une plainte et on faisait venir les hommes, le responsable. Et on lui demandait, ben, est-ce que tu veux épouser cette fille ou pas? Et souvent ça s'arrangeait et les gens allaient en prison. Parce qu'il avait constaté que la scolarisation des filles était vraiment sommaire, arrêtée par le fait de grossesse, etc. Et il va transformer le lycée Caro en lycée de jeunes filles uniquement. Durant cette période-là, des années, je pense que ça c'est dans les années 70, en venant, etc., il y avait un taux de scolarisation des filles qui était élevé. Vous voyez. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui sont là, qui viennent, qui sortent avec les filles, tombent enceintes, qui les abandonnent, et leur scolarité aussi en pâtisse. Et généralement, l'homme continue ses études. Le jeune homme continue ses études et abandonne la fille. Est-ce que c'est pas ça, les voisins? C'est ça. Donc, cette situation...
Attendez, vous dites c'est ça, mais c'est pas les filles qui ont dit ça, c'est les garçons. Ah.
C'est les voisins.
Ouais, c'est les voisins, mais ils ont compris.
Donc vous le faites jamais?
Pas nous. Les autres sont...
La scolarisation des filles, c'est un défi aujourd'hui. Surtout qu'on compte plus de femmes en Centrafrique. Et deuxièmement, les femmes sont vraiment à l'avant-garde même de la vie dans les ménages.
Oui, quand on regarde même les taux de scolarisation, on voit quelquefois des écarts de quoi, 10 à 15 points entre la scolarisation des jeunes filles et celle des jeunes garçons. Et en plus, quand on va dans des régions les moins scolarisées, on retrouve le même phénomène. Et partout où l'UNICEF intervient, notre credo, c'est toujours corriger les défaveurs, les disparités et les inégalités qui frappent les filles en matière d'accès et de qualité à l'éducation. Et en cela, je crois que le phénomène de la violence est quelque chose qu'il nous faut observer. Quand on parle des groupes armés, tout à l'heure je disais que c'était pas seulement le fait d'envoyer les enfants sur les lignes de front pour combattre, mais c'était quelquefois aussi leur utilisation comme esclaves sexuels, leur utilisation comme porteurs, leur utilisation pour faire la cuisine. Il y a différentes formes de violence qui s'exercent et quand on désagrège les statistiques, on se rend compte qu'elles frappent de façon plus extrême les filles qu'elles ne le font aux garçons. Et je pense que c'est cet aspect-là sur lequel nous devons nous concentrer aussi en parlant d'éducation et en parlant de protection des enfants.
Avant de vous laisser la parole pour une conclusion dans cette émission sur l'avenir de la jeunesse, moi j'ai discuté beaucoup tout à l'heure avec des jeunes. Beaucoup m'ont dit il y a aussi un problème de génération. Je voudrais laisser la parole pour cette fin d'émission à Bienvenue. On va vous passer le micro. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes diplômé d'anglais.
Oui.
Vous n'avez pas de travail.
Non.
Et vous m'avez dit, les vieux veulent pas laisser la place.
Oui. Merci. Je suis bienvenu de Lamgan. Nous sommes dans un pays où, depuis les années 60 jusqu'à l'heure actuelle, c'est les vieux que moi je considère comme des dinosaures. Qui gèrent, qui sont aux affaires de gestion de l'affaire de l'État.
Enfin, vous savez, les vieux disent, les jeunes, ils prennent les armes. Alors, il vaut mieux qu'on soit aux affaires.
Bon, vous imaginez, on forme les gens sans pour autant leur donner des emplois. J'accuse le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que 3% des fonds qui sont alloués dans le système éducatif. Prenons par exemple le camp du Sénégal. On affecte 63% des fonds dans le système éducatif, ce qui fait que plus les gens sont éduqués, plus ils se comprennent mieux. Mais moins que les gens soient éduqués, il y aura toujours des crises.
Mohamed Fall va peut-être vous répondre, parce que Mohamed Fall est sénégalais. Mohamed Fall, peut-être un mot avec la comparaison sur le Sénégal, vraiment très, très court. Hein.
Je ne sais pas quelles sont les sources de notre ami, mais ce que je sais, c'est qu'au Sénégal, c'est 40% des dépenses publiques qui sont consacrées à l'éducation.
C'est le premier budget de l'État.
Et le premier budget de l'État, et en Centrafrique, je crois que c'est autour de 12%. Mais il faut dire que les deux pays ne sont pas dans la même situation. L'écart est grand, mais bon, je ne sais pas. Les sources que j'ai, ou en tout cas que j'ai consultées récemment, c'est ça que cela donne.
Bienvenue, encore un mot, et après on laisse la parole aux invités pour la conclusion.
Et donc, je demande à ce que ces vieux dinosaures nous laissent la place. Ils ont fait leur temps, l'heure est venue maintenant de laisser la place à la jeunesse, parce que la jeunesse aussi a une place dans ce pays. La jeunesse aussi doit se donner dans les affaires de ce pays.
Bon, je voudrais laisser la parole maintenant aux invités pour conclure cette émission. Zéphira Moba, je sais que vous travaillez à l'heure actuelle avec des jeunes pour préparer le forum de Bangui, le forum de la réconciliation, qui a été encore repoussé au mois de février. Comment vous travaillez en quelques mots avec eux et qu'est-ce qui vous donne des raisons d'espérer ?
Bon, il y a de l'espoir. Je sors d'une session de formation des facilitateurs qui doivent aller dans l'arrière-pays pour les consultations populaires qui vont préparer la tenue du dialogue du forum de Bangui. Je pense qu'au niveau de la jeunesse qui est organisée en Conseil national des jeunes, ils sont très engagés. Et ce que a dit mon jeune diplômé est réel. Les jeunes ont besoin de s'épanouir. Les jeunes ont besoin de démontrer leur capacité. Les jeunes ont besoin de montrer aussi qu'ils existent et que ce pays leur appartient. Et que l'avenir de ce pays passera par l'implication des jeunes dans les mécanismes de prise de décision et aussi dans leur enrôlement dans les activités de production et de valorisation socio-culturelle. Voilà ce que j'ai à dire.
Mohamed Fall, le forum de Bangui, justement, vous en tant que UNICEF, vous plaidez pour quelle place pour les jeunes dans le forum de Bangui ?
Les enfants doivent être au cœur de l'agenda et si par exemple on discute de réconciliation, d'accord politique, de cessation des actions militaires et armées, les premiers actes sur lesquels nous allons juger les acteurs du forum, ce seront les actes qu'ils mettront en faveur des enfants. Les groupes politico-militaires qui vont signer des accords au forum de Bangui devront d'abord s'engager à libérer les enfants qu'ils ont avec eux.
C'est une condition aussi pour que l'aide continue à arriver ?
C'est un élément. L'autre élément, c'est que dans les perspectives que le forum de Bangui va dégager, que les jeunes et les enfants soient au cœur de ces perspectives-là. Qu'on ne parle pas seulement de désarmement et de sécurité, mais qu'on parle aussi de comment appuyer l'école, de comment appuyer les services de santé, de comment rendre le mouvement associatif des jeunes plus participatif à tous les processus qui vont suivre le forum de Bangui. Voilà donc les éléments sur lesquels nous travaillons et nous appuyons les jeunes, nous appuyons les enfants, nous appuyons les organisations communautaires pour que ces voix-là soient entendues et que ces voix-là ne soient pas les parents pauvres du forum de Bangui.
Je voudrais qu'on laisse le mot de la fin pour 7 milliards de voisins et l'avenir de l'école et de la jeunesse en Centrafrique à un proviseur de lycée, un homme de terrain. Vous avez parlé de héros tout à l'heure, je ne sais pas, mais en tout cas ceux qui se démènent au quotidien pour que l'école fonctionne. René Sylvestre Kétégouilla, proviseur du lycée des Martyrs. Quand vous arrivez le matin dans votre bureau au lycée des Martyrs, vous vous dites encore un mur qui semble insurmontable, ou vous vous dites plutôt non, je vais y arriver petit à petit?
Vous savez, il y a même Aristote qui disait les racines de l'éducation sont amères, mais les fruits sont doux. C'est mon travail. J'aime ce travail et il suffit de faire comprendre aux enfants l'intérêt de ce que vous dites. Et lorsque les enfants y adhèrent, ben c'est comme sur les roulettes. Donc j'aime bien mon travail et j'aime bien les élèves. Donc c'est mon milieu.
Merci infiniment à vous tous. René Sylvestre Kétégouilla, proviseur du lycée des Martyrs. Zéphir Amoba, sociologue à l'université de Bangui. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur votre pays, d'ailleurs, qui sont indiqués sur la page de 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Et Mohamed Fall, représentant de l'UNICEF en Centrafrique. Merci à vous tous, les voisins, les voisines. Merci d'être venu à l'Alliance française. La nuit va bientôt tomber. Je sais que vous êtes pressé de rentrer chez vous parce que là aussi, il y a parfois l'angoisse de ne pas trouver de transport et de se retrouver à la nuit tombée dans la capitale centrafricaine. Alors rentrez vite chez vous, sain et sauf. Merci aux équipes de RFI à Bangui et à Paris. Damien Houlès, Boris Vichit, Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Jonas Malé-Solars. Demain, retour à Paris dans le studio de 7 milliards de voisins avec vos appels. Évidemment, comme chaque jour, du lundi au vendredi, on reste en contact. Hein. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.